Lutter contre un projet de coupe rase d'hectares de forêt, contre l'installation d'un centre de tri Amazon, les luttes locales se regroupent de plus en plus ces dernières années en coalitions thématiques ou régionales, des collectifs issus de la société civile qui se mobilisent contre des projets imposés, jugés démesurés et anachroniques. Début mars, le film « Soulèvement » de Thomas Lacoste était projeté au cinéma des Lobbies à Blois, accompagné par l'association Terre de Lutte, un réseau d'entraide entre luttes locales justement, pour gagner en puissance et renforcer les collectifs à l'initiative des luttes. Avec Clem, nous évoquons le film de Thomas Lacoste, portrait choral du mouvement de résistance intergénérationnelle porté par la jeunesse, les soulèvements de la terre. Terre de Lutte au pluriel, c'est dans la chose commune cette semaine. Pour cette nouvelle chose commune, on se retrouve au cinéma des Blobbies avec Clem. Salut Clem.
Salut.
On est ici ensemble tous les deux pour parler de l'association Terre de Lutte. On est là puisque le film Soulèvement de Thomas Lacoste est projeté ce soir au Lobbies et encore pour une quinzaine de jours dans le cinéma. Tu fais partie de Terre de Lutte, de cette association encore assez jeune si on peut dire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est créée l'association ?
Eh bien, l'association s'est créée finalement de manière assez concordante avec les soulèvements de la Terre et avec des bases politiques assez similaires, c'est-à-dire de considérer que l'enjeu écologique est important et qu'il est lié à des enjeux de classe avec des intérêts divergents et que donc on doit assumer un certain rapport de frontalité avec une classe qui a plus de pouvoir, plus de moyens et qui veut les garder. Qui veut garder son pouvoir et ses moyens, et que donc l'écologie doit être politique, l'écologie doit être anticapitaliste, l'écologie doit être antifasciste aussi, puisque évidemment le fascisme, c'est le bras armé du capitalisme, à la fois un allié objectif et puis un outil. Et donc dans à peu près cette même séquence qui était finalement un peu, c'est le résumé, mais en tout cas dans la prolongation des années mouvement climat, grève pour le climat, etc., avec des modalités parfois massives, parfois plus individuelles, mais en tout cas qui étaient des modalités qui s'inscrivaient notamment dans une culture très centrée sur montrer le nombre et un dogme non violent qui soit exprimé ou plutôt intériorisé. Et bon, voilà, les années passent, les mouvements, les rassemblements, les manifs se suivent et on constate bien que les gouvernements ne sont pas inactifs mais qu'ils sont bien activistes de l'effondrement puisqu'ils continuent à défendre des intérêts qui sont complètement contraires à tout simplement la survie et de notre espèce et de toutes les autres et des conditions actuelles d'existence de la vie sur Terre. Et donc plusieurs mouvements face à ce constat se disent qu'il faudrait peut-être que globalement un peu le cœur d'activité de l'activisme écologiste soit un peu plus confrontatif. Terre de Lutte fait le choix de se positionner à un endroit de soutien à des luttes locales, en croyant vraiment très fort au fait que, non pas seuls dans leur coin, mais bien en réseau, hein, mais qu'en tout cas, c'est une somme de luttes locales qui vont pouvoir, sur le terrain, de manière cohérente avec les endroits, de manière ancrée, de manière située, vont pouvoir lutter contre chaque occurrence de ce qui fait aujourd'hui que voilà, les conditions de vie sur Terre sont mises en danger, et bien les collectifs de lutte locale vont pouvoir pied à pied empêcher tel projet de photovoltaïque sur sol vivant qui va donc empêcher l'agriculture tout simplement, que telle coupe rase d'hectares et d'hectares de forêt sans aucune attention à ce que peuvent être les forêts comme espace de vie pour tout un tas d'espèces, qui va pouvoir lutter contre l'implantation d'un hangar, d'un centre de tri Amazon, qui va pouvoir lutter contre un énième contournement de ville, qui va bétonner des hectares et des hectares pour faire gagner 2 minutes. Et donc là où, puisque là on parle à l'occasion du film Les Soulèvements, je fais le parallèle, hein, là où les soulèvements vont choisir de condenser des forces à un moment charnière d'une lutte pour venir en renfort et pour faire basculer le rapport de force entre le ou les collectifs qui luttent et les forces auxquelles ces collectifs s'opposent, eh bien Terre de Lutte va plutôt faire le choix, on pourrait dire, de souffler sur les braises, ou en tout cas de renforcer ces collectifs, non pas au quotidien, mais au long cours, c'est-à-dire de proposer de la formation, de proposer de l'accompagnement, de proposer aussi des études, va produire des ressources techniques et des outils, donc notamment une cartographie des luttes en partenariat avec Reporters, un calendrier des luttes, un manuel juridique qui a été publié, donc c'est un manuel texte et bande dessinée qui permet d'appréhender, sans avoir forcément les bases du droit, mais en tout cas d'appréhender l'action juridique, c'est-à-dire comment on peut, par des recours, freiner, empêcher, faire annuler des projets. Ça va aussi être le site luttelocale.fr, donc lutte locale tout attaché au pluriel, .fr, qui est un site ressource pour les collectifs sur lequel il y a des renvois vers des documents déjà existants, mais aussi des synthèses de manière de travailler, de manière de se constituer en collectif, de manière de travailler le plan de la communication, le plan de l'organisation d'actions impactantes, le plan du partenariat avec des acteurs institutionnels, et voilà, tout un champ de la complexité qui fait qu'une lutte va pouvoir gagner, puisque ce qui ressort notamment des même trois, j'ai l'impression que dans les trois études ça apparaît, parce que jusqu'à maintenant Terre de Lutte a mené pour l'instant trois études sur les luttes, c'est que globalement les luttes qui fonctionnent, c'est des luttes qui vont réussir à coordonner des moyens d'action complémentaires multiples, et donc d'avoir à la fois un angle plus institutionnel, un angle plus clandestin peut-être, ou en tout cas un angle plus d'action peut-être plus concrète pour empêcher que des choses néfastes aient lieu. Voilà. Et peut-être, pour citer plus rapidement deux derniers angles d'action de Terre de Lutte, ça va être l'accompagnement à la constitution de réseaux, de coalitions, puisque je le disais plus tôt, c'est pas les luttes locales chacune dans leur coin qui vont gagner, mais c'est ce tissu, ce maillage de territoires en résistance qui va permettre que petit à petit des projets complètement aberrants soient retirés. Comme par exemple, ça a été le cas pour Amazon. En fait, c'est parce qu'il y a eu de nombreux collectifs partout sur le territoire de France hexagonale que Amazon a complètement revu sa stratégie d'implantation très sérieusement à la baisse. Et donc, les coalitions, c'est quelque chose sur lequel Terre de Lutte travaille fort, quoi, pour inciter les collectifs à se lier, à échanger, à mutualiser des savoirs et des moyens. Et dernière chose, depuis maintenant 2 ans et demi, enfin 3 ans même avec la préparation, en tout cas Terre de Lutte a lancé en 2023, puis reproduit en 2025 l'organisation d'un événement de rencontre des luttes locales et globales, les résistantes. En 2023, c'était sur le plateau du Larzac. En 2025, c'était en Normandie, près de Briouze. Et à chaque fois, donc, en s'appuyant sur des collectifs locaux, sur une lutte locale, organiser un temps qui va permettre de la formation, de la rencontre entre collectifs, mais aussi informelle entre militants, militantes, et aussi, bien évidemment, de mettre la lumière sur tout ça.
L'association Terre de Lutte accompagne les projections du film de Thomas Lacoste. Comment s'est fait le partenariat et qu'est-ce qui fait que dans ce film, les luttes locales sont aussi mises en avant malgré que le focus soit sur les soulèvements de la Terre ?
Je n'ai pas du tout participé aux échanges qui ont mené à ce partenariat, donc je ne vais pas répondre très concrètement, je vais plutôt répondre en termes de cohérence que j'y vois. Terre de Lutte et les soulèvements sont des dynamiques cousines, on pourrait dire. C'est-à-dire que ça n'est pas le même mode d'action, mais par contre, le gros des fondements politiques sont similaires et il y a des liens. Il y a des liens sur le terrain parce que des luttes soutenues par l'une et l'autre des entités font des liens, mais aussi parce qu'il y a des échanges, parce que c'est des réseaux aussi qui se partagent, hein. Des personnes peuvent notamment être impliquées dans les deux, mais surtout en fait c'est des entités qui, pas aux mêmes échelles et pas par les mêmes modes d'action, avancent côte à côte. Ce que j'ai su en tout cas, c'est que Terre de Lutte avait été sollicité pour être partenaire de ce film au moment où il commençait à être esquissé, et donc c'était une manière de donner de la légitimité à ce documentaire quand il en était encore à l'étape de se donner une légitimité. Aujourd'hui, c'est super, il est abouti, il a été tourné, produit et il est diffusé. Et donc finalement, à notre tour de bénéficier de cette énorme, enfin en tout cas de cette un peu sérieuse médiatisation en nous glissant et en venant aussi amener du vivant dans ces projections, même si en soi le film est très vivant puisqu'il met en scène des personnes qui parlent depuis leur vécu, leur implication dans les luttes.
Le film, c'est 16 témoignages, 16 portraits de personnes qui font partie des soulèvements de la Terre. Toi qui accompagnes les projections, qu'est-ce que ça produit dans les salles, dans les projections que tu as pu accompagner lors des ciné-débats ?
J'en ai pas non plus fait des dizaines. Hein. Et du coup, je pense que je serais bien en mal de répondre par une manière, enfin, par, d'apporter une réponse très très générale. Mais en tout cas, moi, je crois que l'anecdote, je vais commencer par une anecdote qui m'a marqué et qui m'a vraiment fait me dire « Ah super, ok, l'objectif principal du film, il est atteint. » C'est une personne de, je dirais, environ 70 ans. Qui prend la parole voilà, au micro après la projection et qui dit moi je connaissais pas du tout ce mouvement à part ce qu'il en était dit dans la presse et des personnes autour de moi m'ont incité à venir voir ce film et donc j'avais pas d'autre raison que cette recommandation qu'on m'avait faite. Je suis venu en sachant pas trop à quoi m'attendre et ben, j'étais contente de voir ça et j'ai une question. Pourquoi est-ce que vous avez si mauvaise presse ? Et voilà, en fait, le film, le début du projet du film, c'est dans une séquence de très forte répression et de très forte criminalisation du mouvement. C'est dans la foulée de la manifestation à Sainte-Soline en mars 2023, où donc le terrain médiatique avait été travaillé pour, avant même l'événement, dire la violence qui allait avoir lieu, pour préparer l'opinion finalement à s'attendre à de la violence et donc à légitimer la violence délirante qui a été déployée par les forces de l'ordre. Hein. Pour rappel, c'est plusieurs milliers, je crois 3000 ou 4000 grenades qui ont été, 5000 me dit-on dans l'oreillette, 5000 grenades qui ont été jetées en l'espace d'une heure et demie ou deux heures sur quelques dizaines de milliers de manifestants et manifestantes qui, en face, n'avaient évidemment pas les armes de guerre qu'avaient les militaires. Militaires qui, eux, étaient en haut d'une colline de terre, enfin d'une colline, non, d'un remblai de terre, et les militaires qui protégeaient un terrain vague, puisque aucune infrastructure n'avait été construite. Tout ce qui avait été fait à ce moment-là, c'était voilà, d'avoir excavé et d'avoir monté des digues partout autour. C'était un trou. Donc l'armée française, les militaires, les gendarmes, la gendarmerie française, sur ordre de l'État, a blessé très durement, et sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique, des centaines de personnes pour défendre un trou de terre. Bon, voilà, ça c'est un élément du contexte. Dans la foulée, il y a une autre action des soulèvements de la terre qui lance la tentative de dissolution à l'initiative de Gérald Darmanin de ce mouvement. Dissolution qui, pour le rappeler, a abouti à enfin voilà, n'a pas abouti, enfin concrètement ça a été débouté. Et la volonté de Thomas Lacoste, c'est de montrer que ce mouvement, ce ne sont pas cette espèce de chimérique éco-terroriste, mais ce sont des humains, des humaines, des personnes qui, à partir d'un attachement à leurs espaces de vie, à leurs espaces d'habitation, aux espaces dans lesquels ils ou elles ont grandi, vont décider de s'impliquer dans ce mouvement pour défendre ces espaces, parce que ces espaces ou leurs conditions d'existence dans le temps sont mises en danger par les actes d'entreprise, par les actes de l'État, etc. Et donc, voilà, ce film cherche à montrer que ce sont des humains qui cherchent à faire quelque chose qu'ils et elles estiment juste. Et globalement, donc dans les salles, évidemment qu'il y a beaucoup de monde qui vient en étant acquis et en étant ravi d'avoir accès à ces témoignages sensibles, mais qui en tout cas n'a pas besoin d'être convaincu du bien fondé, de la légitimité, du sens de cette action. Mais aussi la vraie bonne surprise, et qui était recherchée, qui était voulue, mais qui se confirme au moins en partie, c'est que dans les salles viennent aussi des personnes qui ne sont pas du tout familières de ce mouvement, de ce qu'il porte, et globalement de ces réseaux d'implication militante, qui découvrent quelque chose et qui, plutôt, en tout cas de ce à quoi moi j'ai assisté, sont touchées par ce qu'elles découvrent. Et ça, c'est vrai que c'est très satisfaisant.
C'est l'intérêt du cinéma et de l'art en général, c'est de pouvoir parler aux autres et sortir un peu de l'entre-soi. Et puis grâce au film, comme tu le dis, parler à des personnes qui ne seraient pas convaincues et qui seraient un peu éloignées de ces milieux-là. C'est certainement aussi un document d'époque parce qu'il va, c'est une autre façon de faire, une autre façon de tourner sur un temps long et donc un autre récit sur les soulèvements de la Terre, contrairement à tout ce qu'on a pu entendre dans les médias. Tu parlais de bataille un peu idéologique avant même Sainte-Soline, mais il y a aussi la bataille sur le plan médiatique. Et ce film, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il va à l'encontre de tout le récit qu'on a pu entendre sur les éco-terroristes et ce genre de choses. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce film au niveau du récit sur la criminalisation et comment les militants et militantes, les personnes engagées autour du vivant ressortent de ces combats-là?
C'est pas évident comme question. moi, ce que j'ai envie d'en retenir, c'est en tout cas que malgré les tentatives de répression, hein, puisque concrètement, c'est de ça qu'il s'agit, le premier témoignage, le film ouvre sur le témoignage d'une personne qui, un matin de... Je ne sais plus exactement quel mois, j'allais dire un mois, mais peu importe. Un matin, à 6h du matin, a été réveillé par une escouade entière de flics. Des dizaines de policiers étaient présents dans sa caravane, dans son jardin et partout autour, vraiment des dizaines. Et puis se retrouve son habitation fouillée, mise sans dessus-dessous, puis emmenée jusqu'à au sous-sol de la sous-direction antiterroriste. Donc voilà, c'est quand même une épreuve assez rude, je pense, on peut imaginer, à vivre. Peut-être que, en tout cas, c'est un premier élément de réponse, hein, se dire que cette personne et peut-être d'autres dans le film, mais qu'en tout cas ce groupe, ce mouvement a vécu ça, a vécu ce niveau de répression évidemment médiatique, hein, puisque c'est le terrorisme, la sous-direction anti-terrorisme. C'est quand même fou d'imaginer que un service très spécialisé de police a été mobilisé, au fond, surtout parce que ça allait permettre de légitimer le discours des co-terroristes. Eh bien, ces personnes, elles sont encore là. Elles sont encore, on l'espère, et en tout cas, on a l'impression de le voir à l'écran, bien dans leurs assises, bien dans leur lutte, encore pleines de convictions et encore pleines d'engagement. Et donc, c'est à minima, au moins, une belle réussite que de montrer que la répression qui a été déployée, aussi massive soit-elle, n'a pas tué cette énergie, cette énergie de survie, tout simplement. Ensuite, pour moi, c'est aussi de montrer que finalement, la répression, ça a aussi un objet, c'est d'ostraciser, c'est de bloquer des personnes dans une zone fermée et isolée de la société. Voilà. Et je pense que ce film marche assez bien aussi pour montrer que, comme je disais, hein, le côté un peu ordinaire d'humains qui sont tout simplement là dans leur vie et qui ressentent le besoin de défendre des choses. Et je trouve très intéressant aussi, je ne saurais plus du tout dire le combientième c'est, mais peu importe, c'est une des deux interviews, un des deux entretiens qui se font en binôme, et où une personne dit à la fin de l'entretien... qu'avant de s'impliquer dans cette lutte pour défendre quelque chose autour de chez elle, elle était plutôt de centre droit et que évidemment aujourd'hui elle remettait en question plein de choses de ses croyances politiques et que depuis son âge de 45, peut-être 40, 45, 50 ans, elle s'excusait notamment aux générations plus jeunes de ce qu'elle avait eu comme conviction et comme comportement avant. Et je pense que c'est aussi important de montrer que les choses évoluent, mais aussi que ce mouvement, il est pluriel et que ça n'est pas juste une sorte de petite frange de population très spécifique, hein, parce que derrière le discours médiatique, c'est aussi d'essayer de créer une chimère, justement, mais une chimère un peu qui n'est pas nous. Et bien là, en fait, non, c'est nous. C'est même un mec de 45 ans qui était de droite avant et qui dit ben voilà, en fait, maintenant je me reconnais dans ce mouvement.
Pourquoi les soulèvements de la Terre font si peur à l'État, selon toi?
Ouf.
Pourquoi tant de criminalisation et de... avec un mouvement comme on peut le voir dans le film, où voilà, il y a aussi la joie de lutter.
Je pense que c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et je pense que si j'essayais d'en avoir, elle serait forcément en partie fausse, puisqu'on ne peut que spéculer. On ne peut que imaginer, et on peut évidemment avancer des hypothèses qui sont sans doute valables, mais voilà, en fait, c'est l'état. Mais l'état derrière, c'est aussi l'état d'une société. Enfin, pardon, j'ai réemployé le terme état, mais donc je parlais de. Enfin, c'est une société. Évidemment que l'état n'est pas ses habitantes, et évidemment que. Les rapports de pouvoir font que, ben, de fait, hein, quand on voit la représentation démographique à l'Assemblée nationale, en termes d'âge, ça n'est pas représentatif. En termes d'origine, de catégorie sociale ou professionnelle, ça n'est pas représentatif. Et donc, évidemment, en termes de rapports de pouvoir, de rapports de domination, de rapports de classe, ça n'est pas représentatif. Mais ça dit aussi des choses de notre société. Mais ensuite, la question de pourquoi ce niveau de répression, ouais, je me sens pas du tout équipé pour essayer d'y répondre.
Tu le disais au début de l'interview, Terre de Lutte donc soutient et amplifie les luttes locales contre des projets polluants. Il y a aussi la volonté d'être aussi dans la lutte contre l'extrême droite, puisque tout est forcément lié. Ça, comment tu peux nous l'expliquer pour les gens qui n'ont pas encore conscience de l'importance de l'intersectionnalité ?
Je pense que c'est un ensemble de raisons. Une raison, peut-être celle qui, moi en tout cas, me vient en premier, c'est que, évidemment, que combattre des projets soutenus par l'État sous un État de droite extrême, comme on l'a actuellement, c'est rude. C'est se mettre en danger physiquement, judiciairement, financièrement, mentalement. Mais tout porte à croire, à la fois le passé et puis les programmes, hein, tout simplement, ce qui est dit aujourd'hui, ce qui est revendiqué, que si une droite encore plus extrême prenait le pouvoir un jour, proche ou lointain, ces luttes seraient encore plus abruptes à mener, seraient encore plus coûteuses à mener, collectivement et individuellement. Donc finalement, c'est presque une question d'intérêt des luttes à pouvoir continuer à se mener dans le temps, que d'aussi essayer d'empêcher que le pouvoir passe toujours plus vers le champ de la droite, et de la droite de plus en plus dure, et de la droite de plus en plus offensive, en fait, hein, on peut le dire. Ensuite, c'est aussi que, tout simplement, les enjeux se croisent. Le terme intersectionnalité, il parle bien du croisement des enjeux. L'intersectionnalité des luttes, c'est aussi montrer que, à la base, je ne suis pas pointu là-dessus, mais je crois que la notion d'intersectionnalité, elle vient des personnes qui subissent différentes oppressions et qui se mettent à conscientiser. Et donc, notamment, je crois que ça vient de l'afroféminisme. Peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'était le constat que, en étant une femme, on subit les rapports d'oppression genrée, puisque, de fait, sociologiquement, il y a une domination de la classe sociale homme sur la classe sociale femme et sur les minorités de genre, et qu'en étant racisé dans une société raciste, comme le sont à peu près toutes nos sociétés, hein, on subit une oppression de cette classe universaliste blanche qui se voit comme l'absolu et qui oppresse les classes racisées, et que, évidemment, quand on a les deux, c'est encore plus dur, c'est encore plus appuyé, c'est des effets qui ne font pas que s'additionner, mais qui vraiment se multiplient, quoi. Donc voilà, pour moi, l'intersectionnalité vient de là, et donc, quelque part, on entend, par exemple, que personne blanche, de classe moyenne, dans un pays quand même riche, bien sûr que l'enjeu écologique, il est important, mais on ne peut pas complètement l'isoler d'enjeux que nous, on ne connaît pas. Et donc, je dirais qu'il y a aussi un sentiment de devoir à la fois moral, éthique, mais aussi tactique, de considérer que les luttes ne peuvent pas être isolées les unes des autres, parce qu'elles sont tout simplement absurdes. En fait, si on cherche à aller contre des rapports de domination à un endroit, considérer que d'autres rapports de domination ne méritent pas qu'on s'y intéresse même, c'est problématique. et c'est aussi louper des endroits d'alliance et de renforcement collectif. Et donc finalement, c'est aussi un enjeu tactique tout bête, hein, de se dire que si on réfléchit à quels endroits nos luttes se rejoignent, on va pouvoir trouver des endroits où nos luttes vont pouvoir converger et se rassembler, se renforcer. Pour le dire en des termes bien plus concrets, dans les modes d'action des soulèvements qui sont de rassembler des forces à un moment charnière d'une lutte, eh bien évidemment que si on arrive à rassembler 3, 4, 5, 6, 8, 10 collectifs en lutte, eh bien on renforce la capacité d'action à l'endroit, on va dire, plus de terre de lutte, qui va donc être du soutien plus au long cours, de, par exemple de la formation. Eh bien, si un collectif est très fort en communication, s'il peut apporter, transmettre, renforcer d'autres collectifs sur ses capacités, sur leur capacité en communication à partir de la sienne, tant mieux. Si un autre collectif est beaucoup plus fort sur des aspects d'action juridique et qu'il peut mettre sa connaissance au service d'autres collectifs, tant mieux. Et si un troisième collectif et bien d'autres sont plus forts à l'endroit de l'organisation d'actions impactantes, joyeuses et confrontatives, eh bien voilà, ça va être tout cet ensemble de compétences qui vont pouvoir être partagées, soit mutualisées sur un temps donné, soit en tout cas se diffuser et se renforcer. Et je le disais tout à l'heure, évidemment qu'une lutte qui gagne, c'est très majoritairement une lutte qui va croiser les modes d'action et donc croiser les savoir-faire.
Et on l'oublie souvent parce que c'est assez peu médiatisé, mais beaucoup de luttes sont gagnées localement par des collectifs d'habitants et de citoyens. On a tendance à l'oublier, mais voilà, il y a de nombreuses luttes au quotidien qui sont gagnées et permises par leurs habitants.
Tout à fait. Alors, je ne suis pas sûr de savoir ressortir de ma mémoire les chiffres exacts, mais en tout cas, oui, au-delà des grandes victoires assez marquantes, comme par exemple la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui a permis l'empêchement de cet aéroport inutile en périphérie de Nantes, comme par exemple la tentative d'agrandissement d'un camp militaire sur le Larzac. Hein, ça, c'est plus dans l'histoire, mais c'est bien présent aujourd'hui dans les imaginaires de lutte. Mais au-delà de ça, même si on a l'impression assez justifiée de se faire pilonner au quotidien, hein, concrètement, la guerre de classe, elle est là et on la perd. Enfin, en tout cas, on y paye un lourd tribut. On a aussi des victoires. On a des centaines de projets qui, sur là, les 10 dernières années, ont été empêchés. Je glisse une information que je trouve vraiment percutante et assez à la fois intéressante mais aussi un peu drôle, c'est que sur les centaines de luttes étudiées par les différentes études de terre de lutte, je crois qu'en moyenne une lutte se gagne en 7 ans et se gagne avec un budget, j'ai peur de dire une inexactitude, mais de l'ordre de 5000 euros. Et donc si on compare les dépenses pharaoniques engagés par les entreprises ou les collectivités qui voulaient construire une plateforme logistique, une énième 4 voies, une méga bassine, c'est aussi dans les luttes emblématiques hein, d'actualité, qui ne sont pas gagnées, mais qui mine de rien gagnent, au sens où des dizaines et des dizaines de bassines étaient censées être construites. Aujourd'hui, très peu sont construites, certaines ont été interdites au tribunal, y compris en appel, etc. Mais donc, le rapport, c'est pas au centime près, mais en tout cas, le rapport entre combien d'argent est investi dans une lutte et combien d'argent est économisé grâce à cette lutte est de l'ordre de 1 à 20 000. C'est-à-dire qu'un euro mis dans les luttes permet d'économiser 20 000 euros au-delà même de la pollution, du désagrément et des dommages immesurables que sont tous ces projets polluants, mais aussi inutiles, imposés. Eh bien, c'est aussi ce chiffre assez rigolo du ratio de 1 à 20 000.
Thomas Lacoste, dans les interviews qu'il a fait sur le film, il parle de la difficulté d'avoir financé ce film. Et je me posais la question aussi pour Terre de Lutte, qui est une association voilà, qui a ses valeurs de mise en avant. Est-ce que c'est difficile d'être financé, d'avoir des financements publics et comment ça fonctionne?
Alors, financement public, évidemment non. Je ne travaille pas sur la recherche de financement sur Terre de Lutte, donc je vais faire une réponse peu développé, mais en tout cas, il est évident que Terre de Lutte ne va pas être financé par des financements publics. D'une part, ça semble assez illusoire d'espérer en avoir. D'autre part, ça serait aussi un bien trop grand risque d'assujettissement. Il faut aussi avoir la franchise de dire que les luttes, elles se gagnent sur énormément de travail bénévole, énormément d'heures qui sont mises sans recherche de rétribution. Et que dans les millions d'euros des projets imposés, polluants, inutiles qui sont combattus, c'est aussi beaucoup de la force de travail rémunérée et bien payée. En plus, dans les luttes, c'est beaucoup des personnes qui ont mis en place des modes d'existence et fait des choix, des sacrifices de frugalité. Et donc, bah, voilà, on fait en sorte de soit dédier du temps en dehors de nos horaires de travail, soit être sur des travails à temps partiel ou des travails précaires parce que ça nous permet d'avoir cette implication. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, c'est un des éléments, mais peut-être je peux rebondir pour parler du fond des luttes. Le fonds des luttes, c'est un fonds de dotation. Donc le fonds de dotation, c'est un statut juridique qui se situe un petit peu, c'est sans doute un peu grossier de dire ça, et peut-être qu'un juriste se retournerait dans son bureau, mais qui se situe à mi-chemin entre une fondation et une association. Et Terre de Lutte a initié le fonds des luttes, et aujourd'hui le fonds des luttes est co-géré par Terre de Lutte et je crois 9 coalitions de lutte qui siègent au conseil d'administration de ce fonds de dotation. Et ce fonds de dotation a pour objectif de mutualiser la recherche de financement pour les luttes. L'intérêt de mutualiser, c'est évidemment d'être dans une optique de solidarité, de renforcement mutuel. Plus on est nombreux, enfin, nos forces ne s'additionnent pas, mais elles se multiplient. Mais aussi face au constat que parfois, une lutte a la capacité de collecter de l'argent parce qu'elle a une certaine visibilité, un certain crédit sympathie auprès d'un certain public, mais que ça ne veut pas dire que c'est le moment où cette lutte a le plus besoin d'argent. Et aussi parce que rechercher de l'argent pour une lutte, c'est pas toujours évident, c'est même souvent assez dur, et ça l'est de plus en plus, notamment là pour le coup, des financements publics ne vont pas forcément directement aux luttes, mais quand les associations environnementales, notamment par exemple du réseau France Nature Environnement, se font baisser voire supprimer des subventions, évidemment que les recours sur des enjeux écologistes, sur des enjeux écologiques pardon plutôt, sont portés souvent par des associations de ce réseau, donc les baisses de subventions ont un impact sur les luttes. Pardon, je m'égare un peu, mais pour revenir donc à ce fonds des luttes, c'est aussi de se dire que voilà, c'est un travail mutualisé et qu'ensuite c'est une répartition concertée de l'argent pour pouvoir ensemble, entre coalitions, ces coalitions vont décider où il semble pertinent d'orienter, de prioriser sur un budget donné les soutiens, que ce soit pour organiser des événements militants, que ce soit pour renforcer la capacité d'investissement pour du matériel au service de tout un réseau de lutte. Par exemple, par le biais des mutuelles de matériel. Les mutuelles de matériel, c'est des structures, je ne sais pas si elles sont très connues dans le grand public, mais en tout cas dans les réseaux militants, c'est vraiment des structures hyper précieuses parce que ces structures, ça va être des structures dédiées, des collectifs qui se dédient à trouver, acquérir, acheter ou se faire donner du matériel, à l'entretenir et à le prêter pour l'organisation d'événements militants. Ça peut aller de un chapiteau à un camion, à des gobelets, à des gamelles pour cuisiner, enfin voilà. Et donc par exemple le fonds des luttes soutient des mobilisations militantes, mais soutient aussi ces réseaux matériels, ces réseaux au service des luttes, que sont aussi les cantines, les réseaux de cantines qui vont se rassembler pour quand telle cantine peut faire à manger pour 200 personnes, telle autre peut en faire à manger pour 500, et bien hop, 6 cantines se rassemblent et elles font à manger pour 15 000 personnes pendant une semaine et servent 95 000 repas. Voilà, c'est encore une fois la force de la convergence des collectifs en lutte.
Donc Terre de Lutte, c'est finalement un facilitateur de mise en lien entre les différents collectifs citoyens.
Notamment, oui. Et pardon, je reviens sur la question d'avant, et d'ailleurs j'avais déjà sorti un peu ma prise de parole de la réponse à la question, mais une précision, le fonds des luttes en tant que fonds de dotation ouvre pour les personnes qui payent des impôts une déduction de 66% du don, des impôts de qui vont être payés l'année suivante. Donc c'est pour reprendre l'exemple rigolo là tout à l'heure de 1 euro pour 20 000 euros, et ben là ça veut dire que 34 centimes en coût réel à la fin vont permettre d'empêcher 20 000 euros, et ça franchement, en termes de rentabilité, c'est imbattable.
Pour finir, une question un peu plus personnelle pour toi qui es engagé sur les questions environnementales et écologiques. Qu'est-ce que ça veut dire lutter? Et quand tu as commencé ton engagement, qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque et comment a changé ton regard sur ce mot?
C'est aussi une question vraiment pas simple. Je vais sans doute répondre de manière pas aussi personnel que peut-être il était attendu, mais je vais y mettre mes mots et je vais y mettre le sens que j'y mets, et je vais essayer d'être compréhensible. Je crois que trop souvent, beaucoup de monde se fait l'idée que lutter, c'est des images d'Épinal. Je pense que c'est important de dire que lutter, ça peut prendre des formes très diverses. Et c'est important qu'il y ait plein de gens qui fassent plein de choses, et c'est aussi important que des gens fassent des choses différentes, parce que si on s'enfonce dans une manière de faire, on risque un peu de devenir ce marteau pour qui chaque problème est forcément un clou. De la même manière que, par exemple, si on se met à faire, j'ai cité les cantines, si on se met à faire que de la cantine, et qu'on ne se pose pas la question de ce qui se passe politiquement et ce qui s'organise derrière, bah, on risque d'amener à manger... à des manifestations où il ne se passe rien, et on aura mis deux journées de travail à plusieurs personnes pour nourrir une manifestation dans laquelle aucun rapport de force ne va être apporté. Et évidemment que c'est important la convivialité, mais que c'est aussi important de savoir ajuster son action aux besoins à un moment donné. Et donc peut-être ça me donne l'occasion de citer un autre terme que je trouve important, c'est aussi le fait de, on pourrait dire, tâtonner. Ou pour le dire autrement, de remettre en question nos choix, nos actions, nos modes d'action, nos manières d'appréhender les choses. Et donc pour ça, d'accepter aussi des fois des remises en question extérieures ou de soi-même travailler la remise en question intérieure. Pour ça, en collectif, c'est important de faire des bilans des fois, de se poser la question de ce qu'on fait, comment on le fait, pas seulement individuellement, mais collectivement aussi. Et peut-être que c'est une des choses qui sont au-delà de... des choses bien connues, hein, la répression, évidemment que c'est dur, ou la peur de la répression, c'est dur. Évidemment que passer des heures et des heures bénévoles quand on vient d'un milieu où plutôt on se dit que le temps actif, il doit être rémunéré, quand je dis milieu, c'est notre société, hein, des fois ça pose question, puisque ça pose aussi la question de comment on subvient à nos besoins si on passe tout ce temps-là de manière bénévole. Mais c'est aussi cette importance de se remettre en question et de... aussi souvent que possible, et évidemment il faut trouver le bon équilibre, parce que si on le fait trop souvent, ça prend trop de place et on n'agit plus, ou en tout cas on agit moins qu'on se pose des questions sur nous-mêmes, mais en tout cas régulièrement se dire, est-ce que je fais la bonne chose? Et autant il semble évident que des personnes ne se posent pas trop la question de est-ce qu'elles font la bonne chose, quand elles se disent que finalement pourquoi pas bétonner des hectares et des hectares pour gagner 3 minutes sur un trajet. Mais peut-être que c'est juste qu'on n'a pas les mêmes valeurs, et qu'en fait elles se posent la question, et qu'avec leurs valeurs ça a beaucoup de sens de faire ça, et c'est tout à fait cohérent et pertinent et éthiquement juste. Mais moi je me pose vraiment la question, est-ce que parfois ces personnes prennent un temps de recul et se posent la question du sens de ce qu'elles font.
Merci beaucoup Clem pour avoir mis en lumière Terre de Lutte, et puis on invite tout le monde à aller voir le film Soulèvement, qui sera encore projeté pendant une quinzaine de jours ici à Blois au Lobis, mais aussi visible dans tous les bons cinémas de France et de Navarre. Merci.